matin, Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, avec le journal des médias, le journal de la culture, Hélène Manarino, les sorties cinéma de demain et Ben l'Oncle Sol. Je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est justement ça le principe de l'émission. Notre info média, l'ouverture du Tank Média, un incubateur d'entreprises qui va être inauguré dans 2 jours à Paris, alors que tout le monde prédit pour les médias et l'info une catastrophe à venir. Nous recevrons son créateur et la patronne de Chica qui croit dur comme fer, en la presse, et lui aussi est tant mieux. Nos invités, Isabelle Carré et Cyril Danvers, elle est comédienne, il est réalisateur de documentaires et ils incarnent chacun à sa manière la soirée continue proposée ce soir par France 3 sur le thème de l'enfance maltraitée avec cette question, un enfant meurt tous les 2 ou 3 jours sous les sévices du père ou de la mère, pourquoi l'école, les médecins, les voisins n'ont-ils rien vu, rien fait? Beaucoup plus drôle, tout à fait autre chose, cet aveu. Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi, je suis né avec une touillette. C'est signé Jean-Luc Lemoine, l'humoriste qui revient avec un livre, une parodie de dictionnaire et un nouveau spectacle brut, tellement brut de décoffrage qu'il dit lui-même que ce spectacle ne pourra jamais passer sur France Télévisions. Mais il sera avec nous dans ce studio, ça promet. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
On démarre avec vous, c'est traditionnel, par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé, à part le bazar de la charité?
Eh bien, écoutez bien, nous sommes en direct de la tour TF1. Écoutez. Voilà.
Champagne.
Champagne, eh oui. TF1 a littéralement mis le feu aux audiences avec le lancement de la nouvelle mini-série événement très attendu, le bazar de la charité. Une fiction en costume à gros budget sur des héroïnes incarnées par Julie Desbonnat, Audrey Fleurot et Camille Lou, mais aussi Josiane Balasco ou encore Stéphane Guillon. Un casting 4 étoiles et un succès d'audience flamboyant puisque TF1 a rassemblé hier 6 800 000 téléspectateurs, 31% de part d'audience.
Mais on recevait hier Ara Aprikian à ce sujet, le numéro 2 de TF1. Et c'est lui qui a lancé ce chantier et qui nous disait que c'était le plus gros investissement depuis 10-15 ans de TF1. C'était 17 millions d'euros les 8 épisodes.
Et bien il a de quoi être très content ce matin, Ara Aprikian, que l'on salue. Et le bazar de la charité qui a fait la deuxième meilleure audience, hein, sans compter le replay, d'une fiction française depuis la rentrée. Alors, en deuxième place, on retrouve M6 avec une nouvelle soirée, la 12e pour être précis, de L'Amour est dans le Pré, l'émission de Karine Lemarchand. Hier, ils ont été 3 300 000 à suivre les histoires d'amour champêtre des agriculteurs de la 6, 14,8% du public. Alors, sans surprise, c'est un score en baisse sur une semaine, mais L'Amour est dans le Pré se maintient plutôt bien compte tenu de la concurrence. France 2 est 3e avec le téléfilm français, on l'appelait Ruby. C'était déjà la 3e diffusion de ce téléfilm daté de seulement juin 2017, ça fait un peu beaucoup. Et donc seulement 2 100 000 personnes ont suivi cette fiction avec Mélanie Doutet, 9,3% de part d'audience.
En même temps, ils n'allaient pas griller une cartouche neuve en sachant qu'il y avait le bazar de la charité en face.
C'est vrai, ils se sont préservés. Et au pied du podium, c'est France 3 avec un nouveau numéro du magazine Le Monde de Jamy, présenté par Jamy Gourmaud, l'animateur à lunettes qui tentait de vérifier hier si le réchauffement climatique aggrave le risque de tempête sur les côtes françaises. 1 500 000 Français ont passé la soirée avec Jamy, 6,9% de part d'audience.
Et on en parlait dans le journal de Mathieu Béliard. Canteloup, alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait un nouveau morphing. Il y avait tout un nouveau système où la tête des gens qu'il imite sont greffées au visage de Nicolas.
Et oui, c'était la grande métamorphose sur TF1 avec Nicolas Canteloup. Et 5 900 000 téléspectateurs, 24,2% du public, ont suivi ces Canteloups. Alors c'est un record de saison et c'est même un record d'audience pour Nicolas Canteloup sur TF1 depuis le mois d'avril.
Ah, c'est encore, le champagne oui, pour Canteloup.
Décidément à TF1, c'est la baignade de champagne ce matin.
Il y a la TNT qui dépasse le million ou pas?
Oui, en prime, on a un beau million pour TMC, encore une fois du champagne pour TF1. Blockbuster avec, le blockbuster Captain America, le soldat de l'hiver, 1 200 000 téléspectateurs, 5,8% de part d'audience. Et voilà, encore du champagne à TF1.
Pour dire que c'est à boire avec modération. Merci beaucoup Pierre Desereaux.
Une bonne journée à TF1. Ouais.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Après les audiences, le journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et alors Cyril, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous demander ce que vous avez au programme, car vous avez décidé de consacrer votre journal à une rencontre très particulière qui s'est tenue hier dans les locaux du journal L'Équipe.
Je vous plante le décor. 15 abonnés triés sur le volet parmi 1200 postulants et sont installés dans de jolies joli petit fauteuil confortable. Dans la salle, même la présidente, directrice générale du groupe Amaury, Marie-Odile Amaury, a fait le déplacement. Ils attendent une star et pas n'importe laquelle. C'est Tony Parker, Tipeee pour les intimes, qui est l'invité d'honneur de cette rencontre exceptionnelle. 4 fois champion NBA, MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la finale. En 2007, bien sûr, champion d'Europe avec l'équipe de France de basket en 2013. Pour la faire courte, un champion comme la France en connaît peu. C'est donc un moment rare qu'a offert l'équipe à une quinzaine de ses abonnés. Une rencontre à laquelle nous avons pu assister. Nous avons demandé à Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction du journal, de nous dire ce que ce genre de rencontre peut représenter pour ses lecteurs.
Les lecteurs sont passionnés en fait. Voilà, il y a une espèce d'émotion, un rapport quasiment charnel vis-à-vis du sportif. Donc pour eux, c'est de tutoyer un peu leurs rêves, puisque ils ont vécu par procuration leur passion pour le sport et pour le basket avec un Français qui a réussi aux États-Unis. Donc il y a plein de choses qui se mêlent et donc pour eux, c'est vraiment, je pense, la réalisation d'un rêve.
Un rêve qui a rapidement pris la tournure d'une discussion entre amis, tutoiement pour tout le monde, plaisanterie et même quelques vannes. Et c'est justement ce ton informel et convivial qui a plu à Gauthier, un des abonnés invités hier après-midi à rencontrer Tony Parker.
Bah moi j'ai grandi avec lui, j'ai 30 ans, quand il a démarré j'étais déjà la tête dans le basket et je pense que ça a fait qu'accentuer l'effet, les dégâts, j'adore ça, je suis un gros mordu, c'est un réel plaisir que de le voir, de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui sur un format aussi intime, c'est quelqu'un d'important pour le basket français.
Alors Cyril, si vous nous parlez longuement ce matin de la venue de Tony Parker dans les locaux de l'équipe, c'est parce que ce genre de rendez-vous s'impose de plus en plus comme une arme de fidélisation pour les médias.
Exactement Philippe, au-delà du prestige de cette invitation, ce qui compte c'est d'offrir aux abonnés du journal un moment privilégié. Car en plus de rencontrer un champion, les invités ont droit à une visite des locaux et un échange avec quelques-uns des journalistes qui fabriquent le journal et le site qu'ils lisent quotidiennement. Nous avons demandé à Valentin Jubert, le responsable des abonnements du groupe L'Équipe, à quoi sert justement ce genre d'événements pour sa marque.
Organiser un événement comme celui-ci, là, la rencontre avec Tony Parker, pour nous, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui motive les abonnés. Les abonnés sont passionnés, ils veulent venir rencontrer des gens qu'ils admirent, qu'ils ont admirés dans leur carrière de sportif. Pour nous, c'est très important parce que c'est un moyen pour eux de continuer à lire notre journal. Et voilà, c'est quelque chose que nos abonnés adorent.
Reste que tout le monde ne peut pas faire partie des heureux élus, des heureux élus. Sur les 260 000 abonnés, 1 200 personnes ont répondu et seules une quinzaine ont été choisies. Valentin Jubert nous explique comment c'est déroulé le casting.
Il y avait une question sur qu'est-ce que représente Tony Parker ? S'il y avait un événement qu'il devrait retenir, quel serait-il ? Et enfin, quelles questions il voulait poser à Tony Parker ? En fonction de ces 3 questions, en fonction de leurs réponses, on les a castées comme ça. On voulait des gens qui étaient passionnés. Enfin, c'est ce qui fait aussi le sel de cette rencontre. C'est vraiment la passion et la passion du basket. C'est des gens qui connaissent Tony Parker depuis l'INSEP jusqu'à sa retraite. Et donc voilà, on voulait des gens passionnés. Et donc c'est vraiment en fonction de leurs questions. Il y a des messages qui nous ont touchés. Il y a des messages qui nous ont fait rire. Il y a des questions pertinentes, variées. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les a sélectionnés.
Alors Cyril, pour tous ceux et celles qui nous écoutent et que ça passionne et qui sont envieux, quelques conseils à retenir pour tenter de gagner votre place la prochaine fois.
Oui, car il y aura bien d'autres rendez-vous de ce genre après Carl Lewis, la légende de l'athlétisme. C'était donc au tour de Tony Parker. Il y aura bientôt Didier Drogba et beaucoup d'autres. L'équipe espère pouvoir inviter 1 000 000 d'abonnés à ce genre de rencontre en 2020 contre 50 cette année. C'est dire à quel point le média compte investir ce secteur.
1 000 000 en plusieurs fois.
1 000 000 en plusieurs fois, oui. Sinon, ça ferait beaucoup de monde tout d'un coup. Pour Gauthier, l'abonné que nous avons rencontré hier, c'est en tout cas clairement un aspect positif de son abonnement.
Oui, la logique d'avoir un petit moment intime, compréhension, parce que l'équipe en fait c'est le lien entre mon quotidien et finalement le monde sportif. Donc là, être directement en contact du monde sportif, ça m'intéresse. Et j'ai rencontré certains journalistes du côté des pages basket que j'ai l'habitude de lire. Et c'est un réel plaisir aussi de comprendre leur métier, ce qui se passe, comment ils fonctionnent, comment ils écrivent les articles, les podcasts, parler du prochain sujet. Être au contact finalement du contenu avec lequel je suis en contact moi tous les jours, rencontrer les personnes qu'il y a derrière. Super important.
Super important cet aspect coulisses. Et pour convaincre les plus grands sportifs de venir à la rencontre des lecteurs, le journal peut compter sur le réseau tentaculaire de ses journalistes qui ont pu nouer pour certains des relations fortes avec certaines stars. Écoutez justement ce que dit Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de l'équipe à ce sujet.
Le premier masterclass qu'on a organisé, c'était avec Carl Lewis. Je pense qu'on est le média en Europe et dans le monde qui suit le plus l'athlétisme. Donc, on a toujours des contacts avec Carl Lewis, son entourage. Donc, on a été capable de le monter. Tony Parker, c'était la même chose. On le suit depuis qu'il est à l'INSEP, donc depuis qu'il a 15 ans. Pour sortir le livre, donc sa biographie, on a regardé un peu toutes les photos qu'on avait. On avait pouvait raconter sa vie en photo également. Donc on a un lien privilégié, c'est David Loriot qui est l'auteur de la biographie, qui l'a beaucoup suivi, qui a animé cette rencontre, cette masterclass. Donc d'une certaine manière, on a créé les conditions d'une proximité, de respect mutuel. Les sportifs nous connaissent, on les connaît, donc ils savent qu'en venant ici, ils vont pas être piégés par un format qui ne leur plairait pas.
Mais alors Cyril, question, et le sportif dans tout ça, il en pense quoi? On a entendu tout le monde, mais pas la star du jour.
Ah, vous vouliez entendre Tony Parker?
Bah oui.
Bon, alors ça, c'était si vous aviez oublié que Tony Parker, c'était aussi...
C'est pas mal. On a déjà entendu vraiment pire.
Oui, c'est vrai.
Ça pas mal.
C'est vrai.
Bien,
bon.
Ce son.
Tony Parker, voilà, c'était essayé à la chanson, le célèbre Balance-toi. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi profité de cette rencontre pour poser quelques questions à Tipeee et notamment savoir quelle différence il y a entre une question de journaliste et une question de lecteur.
Moi, bon, c'est plus des moments privés, comment j'étais dans le vestiaire avant ce match-là ou... qu'est-ce que j'avais dans ma tête à certains moments. C'est toujours sympa de passer un moment privilégié comme ça avec des gens qui m'ont suivi toute ma carrière. Ça fait chaud au cœur.
Si on comprend l'attachement de ce genre de rendez-vous pour l'abonné et pour l'invité vedette, nous avons demandé à Tony Parker de nous parler de son lien avec l'équipe.
Pour moi, c'est le plus grand journal sportif en France et j'ai toujours eu des relations très très privilégiées avec eux et donc c'est toujours un plaisir de partager des moments avec eux parce qu'ils m'ont suivi toute ma carrière, ils sont venus à tous mes grands événements, ils sont venus avec l'équipe de France, enfin, ils m'ont tout le temps soutenu. Et donc pour moi, c'était normal de faire ce livre avec l'équipe.
Vous l'avez entendu, Tony Parker est en promo. Il sort donc une autobiographie, Au-delà de tous mes rêves, en collaboration avec David Loriot, spécialiste basket de l'équipe. Et la rencontre, Tony Parker abonné, est à retrouver aujourd'hui dans le journal et bien entendu sur le site de l'équipe.
Et puis Cyril, pour terminer ce journal des médias, une dernière petite info qui n'a cette fois rien à voir avec le basket.
Pas du basket, mais ça pourrait quand même être du sport. Jeudi, le ministre de la Culture, Franck Riester, se rendra à Bruxelles pour rencontrer Margrethe Vestager, la future vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence et du numérique. Au menu de cette rencontre, Google, qui a trouvé un subterfuge pour ne pas payer les éditeurs français et contourner la directive européenne qui prévoyait un partage de la valeur entre les plateformes et les éditeurs. Franck Riester et Margrethe Vestager doivent se mettre d'accord sur une réponse européenne aux géants américains.
On suivra ça évidemment, vous suivrez ça. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain.
À demain.
À suivre l'info média du jour avec au programme l'inauguration à Paris d'un lieu dédié aux futurs entrepreneurs dans les médias, le Tank Média. On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Oui, l'info média du jour qui va réjouir tous ceux qui, jeunes ou moins jeunes, traditionnels ou numériques, comptent lancer leur entreprise ou leur start-up dans l'impitoyable monde des médias. Ce matin, stop à la sinistrose. Oui, la presse d'hier souffre. Oui, les nouveaux médias ont du mal à trouver un modèle économique viable. Mais il existe des solutions. Voilà pourquoi est né le Tank Média. C'est un lieu unique et innovant dédié au futur des médias radio, si possible. Le Tank Média, en tant que structure, existe déjà depuis 18 mois, un an et demi, mais cette semaine, il s'installe dans ses nouveaux locaux flambant neufs, c'est comme ça qu'on dit, dans le 11e arrondissement de Paris, avec un espace de coworking, des studios audio, vidéo, l'organisation de formations sur les médias de demain et d'événements. L'inauguration officielle avec Louis Dreyfus, président du directeur du Monde parisien, aura lieu après-demain jeudi. Alors pour en parler, j'accueille l'un des cofondateurs, Mathieu Maire Duposet. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes journaliste dans une vie antérieure, vous avez été responsable du développement numérique à Marianne, c'est bien ça?
Absolument.
À vos côtés, Elisabeth Roman. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous avez été rédactrice en chef de Sciences et Vie Junior. Aujourd'hui, vous avez monté un magazine Chica, premier journal féministe pour enfants de 7 à 10 ans, et vous êtes hébergée par le Tank Média. Première question pour Mathieu. Quel a été le déclic pour vous pour monter ce nouveau lieu?
C'est un mélange entre mes différentes vies professionnelles. C'est la difficulté pour un journaliste comme moi qui s'intéressait au numérique de transformer de l'intérieur un média dit traditionnel comme Marianne. J'ai quitté ce monde-là pendant quelques années puisque j'étais directeur adjoint d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Et sur Ulule, j'ai constaté qu'il y avait plein de gens en fait, qui créaient des médias, qui se lançaient avec une énergie nouvelle, une façon de faire souvent un petit peu nouvelle. Mais que cette génération, elle manquait parfois de savoir-faire entrepreneurial quand on sort d'école de journalisme. comme moi. On n'a pas été formé à ça. On n'a jamais été formé à devenir patron de médias. On n'a jamais été formé à devenir entrepreneur. Et cette génération, on s'est dit qu'il fallait l'accompagner, lui donner des clés, des outils, des savoir-faire pour réussir à bâtir des nouveaux médias.
C'est-à-dire que vous avez vu trop d'essais non transformés, j'imagine.
Alors, on a vu beaucoup d'essais non transformés, puis surtout, on a vu beaucoup de gens qui ne se croisaient pas assez. Ne pas transformer un essai, c'est normal. Il y a plein de parcours de gens et d'entrepreneurs qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Et c'est plutôt quelque chose qu'il faut réussir à valoriser. En revanche, ce qui est important, c'est de réussir à tirer des conséquences de ces échecs, à partager ces conséquences avec ses petits camarades et à faire que d'autres initiatives nouvelles et mieux construites puissent aboutir.
Vous parlez de se croiser, justement. Parlez-nous de ce lieu. On va se croiser dans ce lieu. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on va y trouver?
Donc, c'est 1700 m² dans le cœur du 11e arrondissement à Paris. L'idée, c'est de permettre à notre communauté de se retrouver et de se retrouver où pour travailler. On a ce qu'on appelle un coworking. Les gens peuvent louer des postes au mois ou à la journée pour venir travailler. C'est d'essayer de partager des moyens de production. On leur met à disposition des studios, audio, vidéo. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts, de chaînes sur YouTube, de choses comme ça.
C'est-à-dire que jamais tout seul, ils auraient eu les moyens d'avoir un studio vidéo, par exemple.
Seul, c'est très compliqué de se payer ça. Sur l'audio, c'est un petit peu différent. Mais voilà, dans des bonnes conditions, avoir un vrai studio, c'est pas simple. Et donc, on mutualise ces moyens de production. Et puis, on mutualise aussi des lieux événementiels. On a un grand auditorium qui permet d'organiser des événements. Hier matin, on avait un événement sur comment on met en place aujourd'hui une stratégie d'abonnement payant sur un site. C'est le cas de beaucoup de médias qui rencontrent ces problématiques. Ça permet à tous ces gens-là de venir, d'avoir des retours d'expérience, d'apprendre, de partager leur propre savoir-faire. Et on espère que ces frictions positives vont aider à créer un monde des médias plus radieux.
Question à Elisabeth. Vous êtes l'une des toutes premières à être hébergée ici. Comment y avez-vous atterri et pourquoi?
Alors moi, j'y ai atterri parce que j'ai été incubée par le Tank Média l'année dernière et je recherchais un lieu et évidemment, je ne pouvais aller que là-bas puisque c'est le lieu idéal pour un média qui se lance en fait.
Alors je vais raconter votre histoire. Vous avez passé 25 ans dans la presse pour enfants, rédac chef pendant 10 ans de Science et Vie et Découverte, c'est pour les 7-10 ans. Vous avez quitté le groupe Mandadori il y a 3 ans pour monter votre boîte. Vous avez lancé Chica, le premier journal féministe pour les 7-10 ans. Il est vendu sur Internet, il est en librairie aussi, Chica?
Dans quelques librairies pour l'instant, puis dans beaucoup plus en 2020. Oui.
Vous avez fait une campagne de crowdfunding, je me souviens, on en avait parlé ici sur Europe. Combien avez-vous récolté?
65 000 euros, c'est une belle somme.
C'est ce que vous souhaitiez?
je demandais 20 000, donc c'est beaucoup plus.
Bah oui. Donc c'est le tri, voilà, formidable. Et alors pourquoi un incubateur média? Pourquoi le Tank Média? Pourquoi pas toute seule? C'était impossible toute seule de vous développer?
Non, c'est vraiment, de toute façon, c'est impossible d'être ailleurs que dans un incubateur média. Je pense quand on lance un média aujourd'hui, c'est hyper important d'être en connexion avec d'autres médias.
Ah bon ? Moi, je pensais qu'ils étaient concurrents.
Ah non, pas du tout.
Expliquez.
Non, en fait, on n'est plus du tout concurrents. Moi, je m'en rends compte. On travaille tous ensemble. On se donne des trucs parce qu'on a besoin, effectivement, d'émerger. Donc, du coup, non, on n'est pas du tout concurrents, les autres médias. Non.
Vous faites la fête aussi ou pas?
Oui, un peu.
Mais je vous demande ça parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore, c'est que pour être totalement dans l'esprit start-up, il y a un rooftop. Vous pouvez me le traduire en français?
On a un joli toit terrasse qui peut permettre de faire des beaux directs avec une vue sur tout Paris, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, etc.
Ah, moi, je pensais que c'était pour faire des apéros. Ouais, je me dis, mince, c'est l'hiver qui arrive.
Aussi pour faire des apéros, mais il paraît que les journalistes ont un tropisme apéro assez fort.
Il paraît pas. À consommer avec modération, vous restez avec nous à parler maintenant du fond de l'affaire.
Oui, dans l'info média du jour, on parle ce matin du Tank Média, un nouveau lieu dont la mission et d'accompagner une nouvelle génération qui a envie de créer les médias aujourd'hui. On y revient dans un tout petit instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Il existe aujourd'hui à Paris, dans le 11e arrondissement, un lieu dédié aux futurs entrepreneurs dans les médias, le Tank Média. Vous nous en parlez aujourd'hui, ce matin, Philippe Vandel, avec vos invités. Mathieu Maire Duposé, qui est l'un des cofondateurs du Tank Média, et Elisabeth Remond, journaliste, éditrice de Chica, un journaliste féministe pour les 7-10 ans, qui est hébergée par le Tank Média.
Elisabeth Remond nous disait juste il y a quelques instants que désormais les médias ne sont plus concurrents, c'est plus du tout comme ça qu'était le paradigme de la nouvelle presse, des nouveaux médias. Et vous vouliez ajouter quelque chose, Mathieu?
Oui, pour moi, c'est très lié au changement d'époque dans lequel on est. On a été pendant plusieurs décennies dans un moment où les modèles industriels des médias étaient très installés. On savait comment distribuer une chaîne de télé, comment distribuer en kiosque un journal papier, etc. Puis le numérique a rabattu toutes les cartes et a beaucoup relancé la donne. Et donc, on se retrouve dans un moment où on a beaucoup plus besoin de friction, d'inventer, de créer des nouvelles choses, etc. Et dans ces moments-là, on est moins chacun chez soi à essayer de défendre son petit précaré, mais on a au contraire beaucoup besoin de s'inspirer de ce fond sont nos concurrents, les uns les autres, etc., et de se rencontrer. Et on se rend compte aujourd'hui, nous, que tous les gens dans les médias qui travaillent justement sur le développement des médias sont très en attente en fait, d'aller rencontrer d'autres personnes qui font la même chose dans d'autres groupes de presse, dans d'autres expériences.
Mais ça, c'est sur le business, mais c'est pas sur le fond. Moi, je me souviens, j'ai commencé la presse écrite au Journal Actuel et on faisait tout pour que les gens de Libé, de Globe, de l'Express ne soient pas au courant de ce qu'on était en train de préparer, Elisabeth.
Écoutez, non, moi je suis assez transparente et les personnes que je connais aussi, en fait, au contraire, c'est hyper intéressant d'avoir des avis avant que les choses...
On ne se pique plus d'idées comme autrefois. Avant, on se piquait les ongles, on se piquait les sujets.
On peut se les piquer, mais en fait, on se rend compte que finalement, ça aide à sa propre développement, en fait. Donc, ce n'est pas très grave.
Dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'il n'y a pas de bonnes idées, qu'il n'y a que des bonnes réalisations, ouais. Et c'est un peu ça la réalité, en fait.
En même temps aussi, ce n'est pas faire injure à la description de votre journal, mais si vous êtes un journal féministe pour les 7-10 ans, vous êtes très peu sur ce créneau.
Oui, mais pensez que ça inspire des personnes aussi, j'en suis plutôt ravie en fait.
La question qui fâche, combien ça coûte de venir ici dans le Tank Média? Elisabeth, alors
450 euros par mois pour un bureau, c'est ça?
Il y a un bureau, et vous avez quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a en plus du bureau? Parce que c'est pas seulement l'immobilier.
Alors, on n'a pas que le bureau, bien sûr. En fait. On a effectivement des studios, comme on disait tout à l'heure, un studio podcast, un studio vidéo. On a beaucoup d'avantages à rencontrer plein de personnes qui travaillent dans les médias. Il y a beaucoup de formations proposées. Il y a des déjeuners, il y a des événements. Enfin,
Quelle autre économie d'échelle? Je me suis laissé dire que vous aviez, par exemple, une attachée de presse à 3, ce qui est très difficile de se payer une attachée de presse pour soi seul. C'est le cas? Vous, même Elisabeth.
Oui, c'est assez cher et justement, c'est ce que je trouve ça bien, c'est qu'on pourra peut-être dans ce temps que partager certains frais sur certains postes qui sont pas forcément médias mais qui vont nous accompagner.
Mathieu.
Oui, c'est l'idée, c'est effectivement de partager et des moyens de production et des savoir-faire et éventuellement certains postes entre des jeunes médias qui ont parfois du mal à gérer tout ce qui est le côté plus administratif, on va dire, d'un média.
Pour tous les gens qui nous écoutent et qui disent tiens, j'ai envie de me lancer et pourquoi n'irais-je pas m'installer là-bas au Tank Média, est-ce que vous l'avez fait un prix 450 euros par mois, c'est le prix normal ou c'est parce qu'elle était pionnière et que ceux qui vont arriver ça va être plus cher? Dites les choses franchement.
Non,
c'est pas la peine qu'ils vous appellent pour qu'ils soient déçus.
C'est le prix du marché, l'immobilier à Paris est un tout petit peu cher, donc c'est le prix qui nous permet d'être à peu près rentable.
Combien d'entreprises hébergées chez vous? Est-ce qu'il vous reste de la place? Est-ce que vous accueillez encore des nouveaux candidats?
Alors on accueille évidemment des nouveaux candidats dans le lieu. On a nous posé nos valises et mis les derniers coups de peinture il y a à peine 15 jours, donc les premiers résidents sont arrivés comme Elisabeth mercredi dernier, donc ça fait à peine une semaine. Et donc, on a encore une quarantaine de postes qui sont disponibles. Et puis surtout, on lance des programmes d'accompagnement. Et ces programmes d'accompagnement, c'est des choses qui se renouvellent. Donc, on a des programmes quasiment tous les mois sur différentes thématiques auxquelles les gens peuvent candidater quand ils ont envie de lancer un média.
Elisabeth, vous êtes bien là-bas ou est-ce que c'est une pépinière? Et qui dit pépinière dit qu'ensuite l'arbre va se planter ailleurs. Où est-ce que vous voyez rester là-bas longtemps?
Alors, moi, je regarde à 2 mois. Donc, pour l'instant, je sais que je serai là-bas jusqu'à 2 mois. On verra après.
Il va y avoir une inauguration, il faut que je retrouve les noms des gens, ça y est, ça va être jeudi après-demain en compagnie de Louis Dreyfus, président du Directoire du Monde, Céline Orjubin qui est cofondatrice de My Little Paris, c'est Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris. Quel rôle, si tant est qu'ils vont jouer un rôle par la suite, quel rôle vont-ils jouer?
Alors là, ils ont surtout un rôle de parrain sur cette soirée d'inauguration. Jean-Louis Missika est quelqu'un qui s'intéresse depuis très longtemps aux médias, je crois qu'il est sociologue des médias de formation.
Et la mairie vous a beaucoup aidé?
Pas du tout.
Non, il est venu inaugurer mais il n'a rien fait avant.
Oui, mais on a des liens avec la mairie comme tout bon parisien et comme bon citoyen. Mais,
j'ai bien compris, mais ma question était, est-ce qu'ils vous ont aidé?
Jean-Louis Missika a beaucoup participé avec la mairie de Paris au développement de l'écosystème des lieux d'accompagnement dans Paris. Donc on va dire qu'ils ont créé un terreau favorable à ça. Louis Dreyfus s'intéresse beaucoup à ça parce qu'il est dans un gros groupe média aujourd'hui qui est le groupe Le Monde et qui a cette problématique de transformer son média. On s'intéresse aux entrepreneurs mais on s'intéresse aussi à ceux qui ont une fonction plus intrapreneuriale dans ces médias, transformer aussi ces anciens médias de l'intérieur. Et Céline, c'est un beau parcours. My Little Paris, c'est quand même 3 copines qui lancent une newsletter à la base. Et aujourd'hui, c'est un des plus jolis groupes médias naissants et distants sur la place.
Vous avez regardé la météo d'après-demain?
Alors, on n'est pas certain de c'est pouvoir pour complètement utiliser le rooftop. Je crois que ce n'est pas la meilleure période.
C'était ma question. Merci, Elisabeth Roman, hébergée par Le Tank en tant qu'éditrice de Chica.
Merci.
Et Le Tank, un des cofondateurs, Le Tank Média, c'est Mathieu Maire Duposet. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ici en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Merci.
Culture Média continue. On va parler de la soirée spéciale sur France 3 autour de la maltraitance. Un téléfilm et un documentaire, c'est ce soir. Et on y revient dans un instant avec nos invités sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on parle de la soirée spéciale sur France 3, Philippe, qui se mobilise contre la maltraitance.
Oui, chaque jour en France, des enfants sont maltraités. Un enfant meurt tous les 3 jours, dit-on, sous les coups d'un ou d'une proche. On estime à plus de 50 000 le nombre de mineurs victimes de mauvais traitements chaque année. Question, pourquoi tant d'enfants maltraités ne sont-ils pas repérés, trop rarement signalés? Quels sont les signaux qui doivent alerter les professionnels, mais également pour chacun d'entre nous? Et c'est le thème qu'a choisi France 3 pour cette soirée continue avec une fiction, un débat et un documentaire. Ce sera ce soir à partir de 21h05. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Faut-il le dire, vous êtes comédienne et vous êtes Céline, institutrice dans le film La Maladroite. Bonjour Cyril Danvers.
Bonjour.
Vous avez réalisé Les Enfants Maudits, un documentaire poignant sur ce qui est une sorte de scandale méconnu et qui a perduré un siècle en plein milieu de Paris, la prison de la Petite Roquette, un pénitencier pour enfants. Je vais commencer avec vous Isabelle Carré dans La Maladroite. C'est avec Émilie Dequesne et la petite Elsa Ivaert, qui est absolument incroyable, qui doit avoir 6 ou 7 ans. Vous incarnez Céline, la première institutrice de Stella. C'est quoi l'histoire ?
L'histoire, c'est malheureusement une histoire vraie. Alors je rassure tout de suite les téléspectateurs, on ne voit pas de maltraitance. On ne voit rien, en fait. C'était très important pour moi de participer à un film où je ne sois pas choquée en tant que maman.
Je voudrais dire quelque chose pour les téléspectateurs. Oui. Il y a quelque chose d'incroyable, parce que je l'ai vu. C'est qu'on ne sait pas si c'est de la maltraitance
oui.
ou si les parents sont sincères. Donc il ne faut pas spoiler l'histoire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se met dans la peau. Ce téléfilm ne juge pas, ne juge personne. C'est dire la difficulté, en fait, quand on est institutrice, comme l'est mon personnage, et qu'on est confronté à ça, voir une petite fille qui a des marques, et puis on ne sait pas. Et puis tout de suite, le parent efface, en fait, en trouvant une très bonne excuse.
Une excuse, et qui est plausible.
Qui est plausible. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Excuse répandue par la petite fille elle-même.
Voilà, qui protège les parents. Bah oui, il y a ce conflit de loyauté qui fait que malheureusement, les enfants protègent toujours leurs parents. Alors on avance comme ça avec elle, en fait. Et c'est là où c'est très intéressant et où le scénario de François Charpia est excellent. C'est-à-dire que on se met vraiment dans la peau de ce qu'on est, nous, tous les jours. Et face à nos responsabilités, il paraît qu'il y a, j'entendais Adrien Taquet, le ministre chargé de ce dossier, dire hier à France Télévisions que une personne sur 4 seulement appelait le 119 pour dénoncer des cris qu'il entendait derrière la cloison.
Ouais.
Voilà, ce film, en fait, il parle de ça, de notre responsabilité à tous. Et j'en profite pour redire le 119, qui est le numéro qu'il faut appeler. Et quand on est un enfant, c'est le 119, parce que des fois, on ne sait pas dire 100, c'est un peu compliqué. Donc 119 pour les enfants. Prennent en priorité les enfants.
Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et qui sera ce soir dans le débat animé par Carole Gessler.
Et qui va annoncer des nouvelles dispositions demain, dès demain.
Alors, vous l'avez dit, le film commence par cette mise en garde. Ceci est une fiction inspirée de faits réels. On va entendre un extrait, c'est même pas un extrait, c'est le début. C'est la petite Stella qui parle et la première séquence est très forte.
Qu'est-ce que tu fais en classe ?
J'écoute des histoires, je fais de la peinture et il y a même des poissons rouges.
T'aimes bien l'école, dis donc, Stella ?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Gendarme.
Ah bon ? Pourquoi tu veux devenir gendarme ?
Pour aider les autres.
Elle veut devenir gendarme pour aider les autres. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que parfois, même les médecins disent « Mais non, c'est rien, il n'y a rien du tout, ça va, c'est une écorchure. » Et le rapport avec les gendarmes n'est pas facile non plus, c'est très difficile.
Mais c'est plus facile, en fait, d'être dans le déni. Pour beaucoup de choses de ce genre, c'est tellement aberrant, atroce d'entendre ces chiffres que vous citiez. Effectivement, presque 2 enfants par semaine qui meurent sous les coups de leurs parents la plupart du temps. Vous parliez des enfants maltraités, environ 50 000, mais on peut aussi parler des maltraitances sexuelles, des violences sexuelles qui sont de l'ordre de 27 000 et c'est probablement le double. Donc c'est tellement inadmissible en fait qu'on préfère fermer les yeux. Et ce que dénonce aussi le film, c'est que chacun reste un peu dans son rôle. Et ce qui manque, en fait, c'est un lien entre chacun.
Ah, je ne suis même pas d'accord. C'est encore moins manichéen que ça. Ce qui est formidable, c'est que vous allez voir votre collègue institutrice et qui elle-même ne veut pas voir la réalité en face. Et il n'y a pas les bons et les méchants.
Non, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des gens qui n'ont pas aussi de formation.
Ouais.
Et c'est ça que je parlais des annonces d'Adrien Taquet. C'est ça aussi qui va avoir lieu demain. C'est-à-dire, oui, on a besoin de formation, d'un référentiel pour repérer, en fait.
Comment vous avez préparé ce rôle ? Vous êtes allé voir des institutrices, des parents, des gendarmes ?
J'ai parlé un petit peu avec l'institutrice, parce que je suis institutrice de CP dans le film. Donc j'ai parlé avec l'institutrice de ma fille, en fait. Et ça m'a bien aidée. Et elle m'a raconté raconter un petit peu ce à quoi elle avait été confrontée elle-même. Et puis sinon, j'ai pas voulu en fait me renseigner plus que ça sur la vraie histoire, parce que je voulais rester dans la peau de cette femme qui découvre en même temps que le spectateur en fait.
Cyril Danvers, vous avez vu la fiction ?
Absolument.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai été bluffé par l'intelligence du traitement. Justement par rapport à la différence par rapport au documentaire où on serait obligé d'aller dans les faits durs, montrer des photos, il y a une intelligence de traitement qui fait qu'on ne voit pas jamais les violences et donc on les vit en creux lorsque c'est peu à peu constaté dans le milieu scolaire. Voilà. Et quand en plus la fiction est portée par autant de talents d'interprétation, ça donne un film extrêmement juste, extrêmement touchant et qui, à mon avis, arrive à être une fiction gracieuse quand même, sur un sujet extrêmement dur.
C'est ce soir sur France 3, et on parle de toute cette soirée continue avec vous deux.
Oui, une soirée spéciale hein, autour de la maltraitance dans le cadre des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. On y revient dans un instant avec vos invités, Philippe Vandel sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
France 3 diffuse une soirée spéciale Comment sauver les enfants battus à partir de 21h05 avec un téléfilm, La Maladroite, où joue notre invitée Isabelle Carré, suivi d'un documentaire, Les Enfants Maudits, réalisé par Cyril Danvers, qui est également avec nous ce matin, Philippe.
Cyril Danvers, votre doc a été récompensé au Festival des créations télé de Luchon en 2019. Il a reçu le prix de la réalisation et le prix du public. Ça s'appelle Les Enfants Maudits. Ça parle d'un des plus grands scandales français du siècle dernier. Enfin, je dis scandale méconnu, puisque avant votre doc, j'ignorais ce que c'était. La petite roquette, c'était quoi la petite roquette ?
Une machine carcérale de 500 cellules qui, pendant un siècle, a broyé des gamins.
C'est-à-dire que c'était un pénitencier pour enfants ?
Un pénitencier, le pénitencier français pour enfants, voilà, qui était la plateforme parisienne d'enfermement des mineurs sur toute la France, à partir de laquelle on envoyait aussi après, dans un second temps, les gamins finir leur peine en province.
En plein cœur de Paris, rue de la Roquette, d'où le nom La Petite Roquette. Ça commence, votre doc commence avec des jeunes comédiens qui lisent des lettres très poignantes. C'est quoi l'histoire de ces lettres ? Comment ont-elles été retrouvées ?
Un peu par hasard, moi je connaissais l'histoire de La Petite Roquette depuis un moment parce que j'avais travaillé sur la justice des mineurs aujourd'hui. Donc j'étais parti un peu sur l'histoire de la justice des mineurs française. Mais impossible de faire ce film parce qu'il n'y a plus aucune archive. Le pénitencier était rasé en 1974. Curieusement, les archives demeurent introuvables depuis. Donc il n'y a pas grand-chose à part une cinquantaine de photos au ministère de la Justice qui m'ont d'ailleurs été remises par le ministère de la Justice. Donc jusque-là, on avait du mal à pouvoir envisager ce film. Et puis un jour, on a vu passer une lettre sur Internet d'un monsieur qui faisait des conférences autour de quelques lettres de gamins enfermés à La Petite Roquette au début du XXe siècle. On a pris ce contact avec ce monsieur. Et là, moi, je suis tombé sur un gisement de 200 pièces, 200 lettres écrites de l'intérieur par des gamins de 8 à 19 ans.
Et comment il avait récupéré ça, lui ?
Alors lui, il les a récupérés.
Il le raconte dans le doc.
Il le raconte, ouais.
Un peu par hasard. Et ce qu'il a de formidable, c'est qu'il a perçu la valeur de ces lettres.
Historique, ouais.
Ouais. Et ce qu'il y a d'absolument dingue, c'est que si on lit ces lettres, si on les lit, c'est qu'elles ont été conservées. Si on les a conservées, c'est qu'elles n'ont jamais été reçues par les parents.
Terrible.
Et c'est encore plus poignant de les entendre. On va entendre une lettre lue par un jeune comédien.
Chère sœur, je t'écris cette lettre car tu dois avoir su que j'ai été arrêté sur le boulevard Raspail avec le cousin Milo et l'on m'accuse de vol et de port d'armes prohibées. Tu parles de la trempe que j'ai reçue. J'avais un œil au beurre noir et les oreilles grosses comme les poings. Et les bosses, je les comptais même pas car j'en étais rempli. Tu penses ? Quand je me suis revu au dépôt, j'avais pas le sourire. Car comme tu sais, je sortais de m'enfoncer 9 mois et je suis resté 7 jours dehors. Ce n'est pas trop, mais je te promets que quand je sortirai, je me mettrai au boulot. Car j'en ai assez de la vie de prison.
À la vie de la prison, il faut la raconter. Ils sont tous à l'isolement. Ils n'ont pas le droit de parler. Il y a la messe une fois par semaine le dimanche. Et la manière dont ils se déplacent à la messe, c'est caché. On leur met une sorte de camisole sur le visage pour qu'aucun ne se voit. Et ils sont eux-mêmes ensuite dans des cellules, comme on dirait, je trouve pas
on
le
appelle,
mot.
C'est des cellules, on appelle ça l'encellulement individuel. En fait, ouais. C'était une doctrine expérimentale et progressiste à l'époque. On imaginait qu'on ne voulait pas que les gamins se pervertissent entre eux.
Ouais.
Donc on les isolait en permanence. La cellule était le lieu de vie permanent pour travailler, se nourrir, enfin, ce qu'ils pouvaient manger, c'est-à-dire pas grand-chose, dormir et recevoir un enseignement évidemment très léger.
Alors, c'est de quel âge à quel âge ?
De 7 à 21 ans.
7 ?
7 ans. Et alors, attendez, il y avait plusieurs catégories.
Mais on a a priori des gamins de 5 ans ou 6 ans hein, là-bas.
Il y avait les Apaches qui faisaient des mauvais coups, on les mettait en prison. Mais il y avait une deuxième catégorie, il y avait les orphelins ou les mendiants. Il était interdit de mendier. Et les orphelins, comme il n'y avait aucune autre structure, on les mettait en cabane. Et le truc le plus violent, je trouve, c'était les garçons de la correction. Dites ce que c'était.
Alors, il y a 80% des gamins à l'intérieur sont des vagabonds. Donc c'était un délit à l'époque, donc ils sont quand même innocents.
Ouais.
Et puis il y a les gamins, la correction paternelle, en fait, qui viennent la plupart du temps de familles plus bourgeoises, parce que évidemment le contexte social des gamins, les conditions sociales des gamins qui sont là-bas, elles sont venues des couches populaires du.
Il nous reste une minute, donc racontez vite ce que c'était.
Et la correction paternelle, c'est on avait le droit à un père ou une mère d'ailleurs, appeler le juge d'arrondissement pour dire venez me chercher mon gamin, je suis pas satisfait de lui, j'ai besoin que vous le remettiez dans le droit chemin pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois.
Voilà. Les mettaient en prison, il suffisait de payer les frais et absolument. La personne pouvait rester en prison. Il y a des lettres absolument poignantes de gamins qui écrivent à leurs parents, qui disent « Mes chers parents, je vous aime, je comprends ce que vous avez fait, je promets de devenir un type meilleur. » C'est juste complètement incroyable. Ça s'appelle, j'ai oublié, « Les enfants maudits ». Ça sera ce soir. Il y aura d'abord le téléfilm avec vous, Isabelle Carré, qui s'appelle « La maladroite ». Et il y aura aussi un débat « Enfants maltraités, comment les sauver ?» présenté par Carole Guessler, avec Adrien Taquet, vous l'avez dit, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Thierry Beccaro qui a raconté dans un livre les souffrances infinies subies
la présidente de la Voix de l'Enfant aussi.
Exactement, Martine Brousse, et puis il y aura un gendarme aussi chargé de recueillir la parole des enfants.
Il faut saluer, je trouve, France Télévisions qui vraiment s'est engagée, plus qu'engagée pour les droits de l'enfant. Ce 30e anniversaire des droits de l'enfant qui a lieu demain, je trouve qu'ils ont fait un travail complètement incroyable.
Le mot de la fin, Cyril Danvers.
Je veux dire la même chose pour France Télévisions qui m'a suivi sur un projet que j'ai mis 2 ou 3 ans à monter, qui était très difficile et audacieux dans sa forme. Et franchement, j'ai trouvé des soutiens formidables.
Merci à vous Isabelle, vous reviendrez parce que je crois que vous avez un film qui sort. C'est un vrai bonhomme si je suis bien informé. Oui. C'est le 8 janvier.
Je m'inscris.
Vivement 2020.
À suivre notre heure culture, mais tout de suite place aux digressions des rats d'auteur avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je.
Rien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Stéphane.
Vous avez l'air d'aller un petit peu mieux qu'hier, parce que hier, nous étions lundi, je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous sommes mardi, en toute logique.
Cette semaine est très longue, non ?
Oui, alors le mardi est très court.
Ah, bon. Excusez-moi, j'arrête pas de rire, c'est parce que j'ai.
Parce que vous êtes dingue.
Non, c'est parce que je suis en pleine forme, en fait. J'ai dormi comme un loir. C'est très gênant.
On a démarré le mardi, mais on était sur un sujet intéressant. Trottinette. Je vous vois pas en trottinette avec votre physique.
Mais c'est pas très intéressant comme question.
Si on parle d'un sujet, ce serait bien de savoir si vous avez déjà mis votre cul sur une trottinette.
Pas son cul qu'on met sur une trottinette, sur ses pieds.
Est-ce que vous vous sentez bien d'ailleurs sur une trottinette ?
Ça se dit aussi monter à trottinette. Monter à cheval, monter sur une trottinette,
oui.
Monter
sur ses grands chevaux, et pas monter sur sa grande trottinette.
Et après, on peut s'amuser à être très scabreux aussi. Hein.
Francis Cabreux, c'est le frère de Francis Cabrel. Bon, quand on parlait de trottinette, vous passez à Francis Cabrel.
C'est vous qui êtes passé à Francis Cabrel.
Gilles, la trottinette. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi furieux ?
Parce que vous avez mis le doigt dessus, si j'ose dire.
Vous avez mis votre doigt dans votre œil parce que vous ne voyez plus ce que vous voulez dire.
Peut-être que le sujet est moins intéressant qu'on ne le pense.
C'est très difficile de parler avec vous.
Passer d'un truc à un autre. Vous m'embrouillez.
Mais on parle d'une trottinette. Vous, est-ce que vous faites de la trottinette ?
Je vous l'ai dit.
Les gens n'écoutent pas tous les jours ce qu'on dit, je comprends d'ailleurs.
Aujourd'hui, j'en ai pas fait. Ça ne veut pas dire que je n'en fais pas.
Je pense que vous n'avez pas compris la question.
Non, la trottinette.
Trétinette.
Mais on dit ça.
Être trétinette. Mais Tinette, c'est un prénom.
Absolument pas.
Mais si, la chanson de.
Fanette.
Mais qui a chanté la Fanette ?
C'est pas. Comment il s'appelait, le chanteur blond ?
Aznavour, Claude François ?
Oui.
Non, c'est pas lui qui chantait la Fanette.
Et pourtant, ces Coco Girls s'appelaient des.
C'est Stéphane Collaro.
Celui qui est décédé dans le Paris-Dakar.
Charles Aznavour.
Non, mais dans le Paris-Dakar.
Thierry Sabine, il chantait pas.
Mais il était pas.
Thierry Sabine, il était pas, non.
Non, mais c'était.
Thierry. Mais pourquoi vous parlez de Thierry Sabine ?
Mais je sais pas. On parlait de chansons françaises.
Non, on parlait de trottinette. Qu'est-ce que la trottinette vient
non,
foutre
vous
dans le Paris-Dakar ?
Parlez des chanteurs. J'adore la chanson française.
Thierry Sabine est un chanteur.
Non, c'est vous qui parlez de Thierry Sabine. Donc je m'excuse auprès des auditeurs.
Voilà, on en parle demain.
D'accord, Stéphane, à mercredi.
À demain.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain à 9h55 et en podcast évidemment sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec l'humoriste Jean-Luc Lemoyne. Il publie le dictionnaire impertinent et autodérisoire sur la vie et ses à côté. Il démarre également une tournée pour son nouveau spectacle Brut. Un show, dit-il, sans concession, sans tabou, sans filtre, ça promet. Et puis dans les indispensables, les sorties ciné de la semaine et la tant attendue sortie de La Reine des Neiges 2. On en parle tout à l'heure avec Mathieu Charrier. Puis musique avec un retour Ben l'Oncle Soul. Angèle Châtelier l'a rencontrée et elle a adoré.